Alors, comme je vous le disais en introduction, on file un peu avec le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, on file un peu la métaphore de la semence. On avait dimanche dernier cette réflexion sur le terrain. Hein, vous vous souvenez, le grain est semé au bord du chemin, est-ce qu'il est semé dans les cailloux, est-ce que je suis des ronces finalement qui vont étouffer la semence, la plante qui va pousser, ou est-ce que je suis la bonne terre? Et c'était une image pour nous de cet accueil de la parole de Dieu dans notre vie. Hein. Entendre qui a des oreilles, cette écoute. Et puis là, ce dimanche, nous avons une réflexion non pas sur le terrain, mais sur la semence elle-même. En fait, il y a un principe que je voudrais vous donner d'abord dans ce genre de texte. Vous voyez, ce genre de texte où on a d'un côté les fils du royaume, les fils du mauvais. Hein, Matthieu chapitre 25, vous vous souvenez, la parabole du jugement dernier, on a les boucs et les brebis. Alors on a une petite tendance, nous, à répartir les gens. Hein, parce qu'il y a une répartition. Il y a un jugement qui est fait, il y a un discernement. Et donc on a une petite tendance, nous-mêmes, à... Voilà, une tendance très naturelle chez nous, hein, de juger, etc. Donc quelque part, ça nous parle. Et en fait, il y a un petit principe biblique qui est très important, c'est que la ligne de partage entre le bon grain et l'ivraie, ou entre les brebis et les boucs, en fait, il passe pas ici-bas entre les hommes, mais il passe dans notre cœur, dans nos vies. Vous voyez ? Le discernement, il est à faire dans notre vie. Il n'est pas à faire entre les hommes. Enfin, le jugement, laissons-le à Dieu et à l'heure qu'il a choisi. Hein, n'anticipons pas sur le jugement de Dieu qui ne revient qu'à Dieu, de toute manière. Donc, petit principe qui est quand même important pour nous quand on lit ce genre de texte, parce que sinon on aurait peut-être trop tendance à avoir une certaine prédestination des personnes, prédestination des hommes. Ah, il y a des fils du royaume et il y a des fils du mauvais. Donc on est tous prédestinés. Non, c'est pas catholique ça. Hein. C'est pas catholique. Donc sortons ça de notre tête et entrons dans une vraie théologie. Laissons le jugement à Dieu. Notre question à nous, c'est pas celle de juger nous-mêmes, mais notre question à nous, avec cet évangile, c'est de vivre avec l'ivraie. Comment est-ce que nous vivons avec l'ivraie? Comment est-ce que nous vivons avec le mal qui est en nous et qui est autour de nous? C'est ça notre question. Chacun de nous est tour à tour, de quelque manière, un criminel ou un saint. C'est Bernanos, sous le soleil de Satan. Chacun de nous est tour à tour, de quelque manière, un criminel ou un saint. Il y a du bon grain et il y a de l'ivraie. Donc prenons ça vraiment en compte. La sainteté pour nous, c'est cette capacité de composer et de vivre avec l'ivraie, en nous et autour de nous. Parce qu'en voyant l'ivraie, nous avons toutes les mauvaises raisons de ne pas être saints. Mais nous savons que dans notre foi, nous avons toutes les bonnes raisons de l'être vraiment. J'ai intégré l'ivraie dans ma vie et autour de moi. Par exemple, je pense que ça va vous parler, mais quand je cesse de dire « l'autre est ceci », l'autre est cela. Ça, on y arrive très bien. Hein. L'autre, il est ceci, l'autre, il est cela. Le jugement est fait. Et quand j'ai cette petite conversion langagière qui est très bien, mais l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. C'est très important quand on va se confesser. Hein. Je suis pécheur. Bon, très bien, on est tous pécheurs. On le confesse, très bien. Mais j'ai fait ceci dans la confession. J'ai fait cela. Ça, c'est très important. Vous voyez, de nommer les actes, et pas d'identifier je suis mon péché. Non, je ne suis pas mon péché. Voilà. Il y a la miséricorde de Dieu qui vient apporter un net arrêt à mon péché. C'est la miséricorde. Donc l'autre est ceci, l'autre est cela. Non, je corrige. L'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Essentiel dans nos relations. J'imagine que dans un couple, si au bout de quelques années de mariage, on dit l'autre est ceci, l'autre est cela. Les 60 dernières années, ça va être difficile. Vous voyez ? Bon, c'est pareil dans toutes nos relations. Hein ? Donc, à nous de vraiment corriger, d'être attentifs à ça. On se pose la question aussi, hein, j'ai intégré l'ivraie dans ma vie. Ben, en se posant cette question, qu'est-ce que c'est qu'une journée réussie pour vous ? Qu'est-ce que c'est qu'une activité qui est réussie pour vous ? Est-ce que c'est une activité ou une journée où tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Il n'y a aucune aspérité, il n'y a aucune ivrée. Ou est-ce que c'est finalement une journée où, à travers les échecs, à travers l'ivrée, j'ai appris quelque chose. J'ai grandi à travers ça. Là, j'ai composé avec l'ivrée et j'ai grandi. Voilà, peut-être que c'est ça, une activité ou une journée qui est réussie. Parce que vous voyez, hein, notre société, elle n'aime pas trop les imperfections. Hein. Elle essaye de gommer un peu toutes ces aspérités, toutes ces ivrées. Et alors, on va être entré dans un autre mode qui est celui de la rentabilité. Alors, on n'aime pas trop ces aspérités. Ben, nous, intégrons-les dans notre propre vie et dans toutes les dimensions de notre vie. Alors, je voudrais vous donner trois pistes pour vivre ce chemin, pour vivre avec l'ivrée. La première des pistes, c'est que, voyez, nous n'avons jamais, et je pense que nous n'avons pas fait tous cette expérience, et que nous l'avons pas, pour ceux qui l'ont fait un petit peu, nous l'avons pas fait suffisamment. Nous n'avons jamais suffisamment découvert notre misère. Souvent, quelqu'un est dur avec les autres quand il n'a pas accueilli la miséricorde de Dieu sur lui. Voyons nos réactions. J'accueille pas la miséricorde de Dieu sur un point de ma vie, et souvent je vais durcir ce trait quand, dans ma relation avec les autres. Et voyez, je me découvre, quand je découvre ma misère, quand je découvre cette miséricorde de Dieu qui m'est faite, eh bien souvent je suis plus doux avec les autres. Je suis plus compatissant, je suis plus patient. Vous voyez, quand je parle de la patience, c'est la vertu qui nous est proposée dans cet évangile. Hein. Quand le maître dit « laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson », c'est-à-dire patience, laissons pousser, patience, patience. Demandons cette vertu de patience, cette vertu de patience, et pour nous-mêmes, parce que souvent nous sommes aussi durs avec nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et durcissons pas les traits qui sont, les mauvais traits qui sont en nous pour les projeter sur les autres. Voyez, grande patience, grande compassion. Donc découvrons cette misère, mais découvrons combien plus cette miséricorde qui nous est faite. La deuxième piste, c'est que il est important pour nous de nous rendre compte du nombre de fois où l'on s'est trompé dans nos jugements trop rapides. Souvent, jugement trop rapide, on a catégorisé, on a catalogué, et c'est fini. Et après, c'est difficile de redresser un peu la barre. Voyez que la moisson, elle est laissée aux anges. Elle n'est pas donnée au fils du royaume. Hein. Elle est laissée aux anges, c'est-à-dire à des intelligences qui dépassent la capacité humaine, qui dépassent notre propre capacité. Nous ne savons pas tout de la vie des gens. Et souvent... C'est assez tranché. Hein. Moi, enfin, je le vois dans ma propre vie. Hein. C'est assez tranché. Trop rapide, trop incisif. Il y avait cette petite histoire de Sainte Thérèse. Petite histoire qui... en fait, elle a passé une mauvaise journée. Ça nous arrive quelquefois, on passe une mauvaise journée, elle a passé une mauvaise récréation. Il y a une récréation dans un carmel. Et ça ne va pas bien. Enfin, Sainte Thérèse, elle ne va pas bien. Et alors, c'est le temps de l'Avent. On prépare Noël. Et puis, on sait qu'à la fin de la récréation du carmel, on va accueillir les sapins de Noël. Alors, grande joie hein, pour une carmélite qui ne peut pas sortir de son carmel. Ben, c'est une grande joie d'accueillir le sapin de Noël. Et donc, il y a une sœur qui est désignée pour ça. La supérieure, elle désigne Sainte Thérèse, et ou celle qui est à côté. Et donc, en fait, c'est à celle qui ira le plus vite. Et Sainte Thérèse, à ce moment-là, elle qui est dans la tristesse, qui est dans l'affliction, elle fait exprès d'aller plus lentement pour laisser cette joie à sa sœur. La joie d'accueillir le sapin de Noël, de le décorer, de le mettre à côté de la crèche. Enfin, voilà. C'est quelque chose d'une grande joie. Très bien. Elle le fait exprès. Et puis là, il y a la sentence de la supérieure. C'était sûr que vous ne gagnerez pas, vous alliez trop lentement. Bon, est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'elle a pris le temps de voir la vertu de Sainte Thérèse à ce moment-là? Non, nous ne savons pas tout. Et souvent, nous jugeons comme ça, de manière incisive, Alors peut-être que derrière, ben, y a de la vertu. Peut-être que derrière, il y a de la souffrance. Peut-être que derrière, ouais, y a un tas de choses que les gens portent. Donc à nous de bien reprendre nos jugements trop hâtifs, hein, pour les tempérer. Et puis la troisième piste, c'est de bien prendre conscience que ici-bas, dans notre monde, c'est pas comme de l'agriculture. Vous voyez, en agriculture, l'ivraie ne deviendra jamais du bon grain. C'est pas possible. Mais dans nos vies, c'est possible. Ça s'appelle la conversion. Donc c'est possible. L'ivraie peut être transformée en bon grain. Je peux avoir plus de bon grain que d'ivraie. Et puis finalement, le bon grain étouffé, l'ivraie, qui est dans ma vie. Ça s'appelle la conversion. Quelle est la destinée du bon grain ? Faut faire appel à un autre évangile. Je vous balade un petit peu là. Faut faire appel à un autre évangile. La destinée du bon grain, c'est de mourir. La destinée du bon grain, c'est de mourir. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc la conversion, une des images de la conversion pour nous, c'est de mourir au monde. Vous voyez, j'ai été visiter mes camps scouts. Très bien. Bon, il y avait plein de soleil et tout ça. Et puis, on me pose la question, mais pourquoi vous êtes habillé en noir ? Bah oui, quand il fait du soleil, vous êtes en short et puis en couleur claire, etc. Comme ça, vous pouvez aller à la plage, tout ça. Bah, le prêtre, quand il est habillé en noir, bah, il est habillé en noir. Pourquoi cette couleur noire ? Pour signifier la mort au monde. Et ça tranche bien avec l'aube. La couleur blanche de l'aube qui vient montrer justement la résurrection du Christ. Et donc cette couleur noire qui montre en fait cette mort au monde. Et donc je me pose la question ce dimanche, je repère dans ma vie ce qui est encore trop du monde pour le faire un petit peu plus mourir, pour faire un peu plus mourir livré en moi et laisser vivre le bon grain. Voilà, demandons au cœur de cet été cette grâce au Seigneur.